18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'horrible chaleur qui s'est abattue sur la France, 47 départements encore en vigilance orange aujourd'hui. Les climatologues promettent la multiplication des épisodes de ce genre avec des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Enfants, parents, grands-parents, il va falloir apprendre à vivre avec, à l'école ou au travail. Quelles conséquences, quels dangers? En 2003, la situation avait tourné à la tragédie, 20 000 morts en France. Depuis, des politiques de prévention ont été mises en place, sans doute encore perfectibles. On en parle jusqu'à 20h. Intervenez, amis auditeurs d'Inter.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000 pour intervenir. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir et merci pour vos émissions.
Merci à vous.
Je suis une fidèle de la radio.
C'est très gentil, merci.
Voilà. Je vous appelais pour vous poser la question suivante. Comment les villes et l'État, les collectivités peuvent aider les particuliers pour mettre en place des solutions destinées à faire baisser la température dans les villes, notamment je pense à la végétalisation des murs, à la climatisation des appartements, et puis sans doute d'autres solutions. Bien sûr, il y a les transports, mais bon, ça c'est une question qui appartient plutôt à la collectivité.
Merci beaucoup Isabelle. Merci voilà. Pour cette question d'ouverture pour vous répondre et dialoguer ce soir avec vous. Patrick Peloux, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin urgentiste. Pascal Chanvert, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Tour de table qui se poursuit avec Marie-Dominique Dressé en duplex de France Bleu Alsace à Strasbourg. Madame l'adjointe au maire de Strasbourg en charge de l'action sociale territoriale. Je vous salue, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous voulez ou pouvez répondre à la question d'Isabelle sur ce qu'on peut faire en ville pour essayer de limiter ces pics de canicule?
La question est intéressante, mais là, on se retrouve avec des pics de canicule. Il faut répondre dans l'urgence. Donc, il y a des mesures d'urgence à prendre immédiatement dans le vif du sujet. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir anticiper. Et je pense que la crise de 2003 a ouvert un certain nombre de réflexions d'une manière brutale, il faut le reconnaître, mais a permis aussi qu'il y ait une prise de conscience. Cela, plus effectivement ce que dit le GIEC avec le réchauffement de la planète. Aujourd'hui, on sait que nous devons prendre des mesures. Alors, les collectivités, évidemment, je dirais avec une urbanisation qui soit dans le développement durable, c'est-à-dire avec la végétalisation, avec l'isolement des bâtiments, avec une architecture conçue avec intelligence. C'est vrai. Mais cela va même au-delà de ce que peut faire une collectivité, parce que le vrai problème, c'est ce réchauffement sur lequel, on a vu des débats récents avec la COP21, il y a des infléchissements à faire, et pour cela, se poser en leader fort, français, européen, sur la question. Je crois que c'est un tout.
On retourne au standard. Je salue Fabien. Bienvenue.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, merci aux techniciens qui nous permettent de vous écouter.
C'est très gentil pour eux.
Et bon courage à vous tous parce qu'il doit bien faire chaud dans vos studios.
Ils sont climatisés. C'est le seul endroit frais de la maison de la radio.
Moi, je vous appelle parce que on est en été et il fait chaud et c'est normal. Et j'ai l'impression que tous les messages qu'on entend... comme quoi il faut se protéger du soleil, il faut bien s'hydrater, il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes. J'ai l'impression que ça infantilise le public, que les journalistes parlent de la chaleur, des pics de pollution, c'est normal, c'est un marronnier journalistique, mais sinon les messages sur la santé publique comme ça, je trouve que ça infantilise les gens plus qu'autre chose.
Eh bien, écoutez, merci Fabien pour cette question, pour cette observation. Patrick Peloux, c'est important d'informer là-dessus. Je le rappelais tout à l'heure, 2003, 20 000 morts. C'est le signe qu'il fallait faire un travail d'information qui n'avait pas été fait, que la France découvrait les conséquences potentiellement dramatiques d'une canicule.
Alors voilà, c'est la réponse à l'auditeur. Si le pays ne fait rien... le peuple souffre et les gens meurent. Donc il vaut mieux faire quelque chose et avoir une politique de prévention parce qu'on sait que de toute façon, dans la canicule, ce qui rapporte le plus de succès, c'est finalement la prévention. Donc je n'en veux absolument pas aux médias et aux journalistes de faire le plus possible de prévention, car nous ne sommes pas dans une civilisation qui avait la culture du soleil. On était habitué à avoir un climat tempéré, etc. Tous les indices, ce que disait notre interlocutrice de Strasbourg, et c'est démontré par tous les instituts scientifiques, nous sommes vers un réchauffement climatique. Donc là, nous sommes avec le problème de la canicule. Derrière, il y aura les problèmes infectieux, parce qu'il n'est pas du tout exclu que le palu arrive en France. Donc on est avec de gros problèmes. En effet, nous devons muter complètement nos comportements. Et une fois de plus, avec cet épisode, alors ce ne sont pas des pics de canicule, c'est une véritable canicule. Elles n'ont pas, et on ne peut pas parler de canicule au singulier, mais c'est des canicules. Celle qui est en train de prendre forme cette année, on ne sait pas quel jeu elle va nous faire dans les semaines qui viennent. Il faut espérer un petit radoucissement pour que les corps s'habituent, mais on ne sait pas où on va. Et c'est là où, en fait, il y a une interpellation à long terme. Et c'est vrai qu'il faut muter complètement. Mais je suis confiant parce qu'en voyant déjà depuis 2003, qui est quand même la plus grande catastrophe due au réchauffement climatique qu'on a eu, pas seulement en France, mais aussi en Europe, où il y avait eu 80 000 morts, on a quand même drôlement évolué et drôlement compris ce qui se passait. Malheureusement, là, nous avons constaté depuis hier les premières victimes dues à l'hyperthermie, dues à ce problème de canicule.
Ça veut dire que les gens vont à l'hôpital depuis hier?
Oui, ils font beaucoup de malaise. Nous avons eu des hyperthermies malignes avec quelques décès. C'est inhérent, la canicule tue. Il faut savoir par exemple que les sans domicile fixe meurent plus des effets du soleil et de la canicule qu'ils ne meurent l'hiver du froid. Et là, on a vraiment, si vous voulez, c'est une espèce de big bang comme ça, de confrontation entre tous les systèmes, la canicule. Ce n'est pas simplement un problème. C'est là où je comprends un peu ce que veut dire l'auditeur en disant la santé publique, pourquoi vous en faites. Mais c'est un problème de santé publique, mais c'est aussi un problème social, mais c'est aussi un problème environnemental et c'est aussi un problème d'accès aux soins, notamment pour les personnes âgées.
De votre point de vue de médecin, Patrick Peloux, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la culture générale sur ces sujets-là? Culture générale à la fois des médecins, des soignants, des pouvoirs publics et même des citoyens.
Ah ben oui, lorsqu'on a lancé l'alerte en 2003, en fait, si on avait eu tous les outils qu'on a actuellement, et notamment le lien avec les collectivités, notamment les mairies, etc., ça aurait changé la donne. On l'a vu parce que tout le monde l'a oublié, il y a eu une canicule en 2006, et quand il y a eu la canicule en 2006, si on avait gardé les mêmes systèmes qu'en 2003, on aurait eu 14 000 morts, on n'en a eu que 7 000. Donc c'est vraiment un véritable danger. Et on a changé, on a muté. La preuve, on en parle, les gens en parlent et les gens apprennent progressivement à se protéger. Malheureusement, on ne peut pas mettre un CRS derrière chaque citoyen. Donc vous avez encore des personnes qui vont faire des travaux de force en plein cagnard. Vous avez ceux qui vont partir faire des jogging alors qu'il fait très chaud. Et là, c'est une mise en danger.
Pascal Chanvert, qu'est-ce qu'on a appris? Je rappelle que vous dirigez, vous présidez l'association des directeurs au service des personnes âgées. Qu'a-t-on appris de 2003 par rapport aux personnes âgées, notamment en matière de canicule?
Incontestablement, tout ce qu'a dit Patrick Peloux, c'est-à-dire qu'il y a une culture chez les Français. Moi, je partage l'opinion selon laquelle il faut faire de la prévention et il faut passer des messages de santé publique.
Une culture. Ça n'est pas de l'infantilisation, à notre auditeur.
L'auditeur le prend comme tel, c'est dommage, mais qu'il entende que si lui est très informé et qu'il n'a pas besoin de ces informations, il y a des gens qui en ont plus besoin peut-être. Donc non, ça n'est pas inutile. Incontestablement, sur les mesures d'alerte, sur la circulation de l'information, sur les liens avec Météo France, il est clair que nous pouvons protéger des vies en faisant tout cela. Et ça, c'est les points positifs qui ont été faits par les pouvoirs publics. Pour autant, tout n'a pas été fait. Parce que j'ajouterais à la liste qu'indiquait Patrick Peloux que dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, la canicule a joué comme un révélateur des retards de notre pays en matière d'aide aux personnes âgées. C'est si la canicule a autant tué en 2003, c'est parce qu'il n'y avait pas les mesures d'information et de réaction. Aujourd'hui, elles existent. Pour autant, il y a un autre facteur, c'est l'insuffisant temps passé auprès des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en établissement, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels, et ça, ça a à peine augmenté depuis 2003. Ce qui veut donc dire en clair que s'il y a un nouvel épisode caniculaire, et comme l'a dit Patrick, on pourrait être dans cette situation, parce qu'il faut se souvenir qu'en 2003, il n'a pas fait chaud qu'au mois d'août, il avait commencé à faire très chaud en juin. Si évidemment le mois de juillet est frais et pluvieux, il est probable qu'on ne revivra pas ce qui s'est passé en 2003. Mais si juillet est très ensoleillé et très chaud, écoute ensuite est très ensoleillé et très chaud, on pourrait être dans la même configuration. On n'a jamais revu depuis 2003 trois mois de suite très chaud. On a eu des petites périodes, Patrick Peloux l'a indiqué, mais on n'a jamais eu une période aussi longue que 2003. Si on avait à nouveau une situation de ce genre,
on saurait la gérer.
Eh bien, je pense que nous n'aurions pas 15 000 morts parce qu'il y a toute la circulation de l'information, toutes les préventions. Pour autant, il n'y aurait pas zéro mort. Et c'est ça qui est absolument dramatique, parce qu'il n'y a toujours pas assez de temps passé auprès des personnes âgées dans notre pays. Et il faut passer plus de temps auprès des personnes âgées. Quand il fait très chaud, on en parle, mais plus fondamentalement, il faut passer plus de temps auprès de nos aînés, toute l'année.
Mmh. Impossible, dites-vous, Patrick Peloux.
Ce serait mentir à tout le monde que de dire qu'il n'y aura pas de mort avec une canicule. De toute façon, là, on en a déjà des cas. Ça tue, la chaleur tue. Faire un jogging, même si vous êtes en très bonne santé, avec 40 degrés en plein cagnard et vous courez, vous faites une hyperthermie d'effort qui est si bien connue des services de santé des armées et vous mourrez d'hyperthermie. C'est une réalité. Mais on n'aura jamais zéro mort. C'est exactement comme l'épidémie de grippe, en fait, si vous voulez, l'hiver. Il y a toujours quelques milliers de personnes. Mais on peut limiter les dégâts. Maintenant, s'il y avait une grande crise, c'est vrai que les hôpitaux se sont préparés, il y a des plans, etc., qui sont mis en place. Mais c'est vrai que le quotidien est difficile. Là, déjà, c'est quand même un petit peu sous tension. Mais on fait face. Et c'est vrai que dans les services des urgences, à l'heure actuelle, on nous demande beaucoup, y compris les SAMU, avec à la fois le risque d'attentats terroristes, à la fois la gestion de la canicule, etc. C'est... on a beaucoup de travail. Hein.
J'imagine,
mais,
ouais.
Voilà.
J'imagine.
Mais en gros, ça serait mentir que de dire avec une canicule, zéro mort, ça c'est impossible. Il n'y a aucun gouvernement qui pourrait le vouloir. Juste un petit mot, parce qu'il faut quand même savoir que nous sommes le seul pays au monde à avoir une telle campagne de prévention, à avoir un tel niveau de compréhension du système. Et c'est probablement un des arguments qui a fait, finalement, porté la révélation du réchauffement climatique pour la COP21. Donc je crois vraiment qu'on peut être fier de ça.
On retourne au standard. David, bonsoir.
Oui, bonsoir, David à Saint-Étienne.
Bienvenue.
Je voulais vous faire part d'un petit témoignage qui en fait est le relais de conseils que j'ai entendu d'un urologue sur votre antenne même, ou France Info, je ne sais plus, et qui expliquait que suite donc aux épisodes de 2003 et la prévention qui en avait découlé, on avait tendance maintenant à se surhydrater et tomber dans l'excès inverse au niveau de l'hydratation. Et donc il donnait un conseil très simple qui peut paraître même simpliste, qui est celui donc de se baser sur la coloration de ses urines. Voilà ce que préconisait cet urologue et je pense que c'est facilement utilisable.
Restez avec nous, David. Patrick Peloux, médecin urgentiste, vous répond.
Alors, il a à la fois raison et tort. Les hyperhydratations, on n'en a quasiment pas vu. D'accord. Donc ça, premièrement, donc faut pas avoir peur de boire, faut pas inverser la charge du problème. Premièrement. Deuxièmement, ça c'est clair que pour un urologue, il a raison. Si vous buvez bien, vous pissez bien. Bon, c'est valable pour les enfants et notamment les nourrissons. Si vous changez votre gamin et qu'il la couche est sèche, c'est qu'il boit pas assez. Donc voilà, c'est une question de nuance. Mais quand vous êtes en bonne santé, hein, vos reins vont exercer le rôle de filtre et si vous allez uriner plusieurs fois par jour, si vous allez pisser, bah finalement c'est que vous buvez bien. Si vous ne pissez pas de la journée, ben là, il y a un problème. Voilà.
La surhydratation...
Non, c'est un faux problème.
Voilà, on est d'accord. Alors, nous avons un certain nombre de questions par courrier électronique. Je suis enseignant en primaire. L'école dans laquelle j'exerce date des années 60 et n'a pas bougé depuis. Enfin, si, elle s'est dégradée. Ma classe est au deuxième étage, orientée à l'est. La nuit, pour éviter les intrusions, nous devons fermer les fenêtres en simple vitrage, sans store. Je vous laisse imaginer les températures. Comment se fait-il que les municipalités et les pouvoirs publics en général ne montrent pas l'exemple en termes de transition écologique. Marie-Dominique Dressé, en duplex de France Bleu Alsace. Comment recevez-vous ce témoignage de notre auditeur dans un courrier électronique intitulé « Fournaise à l'école » ?
Alors, c'est vrai que depuis ce matin et hier, on entend des reportages de ce type et il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y a des collectivités qui ont pris ça à bras-le-corps ou même des communautés enseignantes et pédagogiques qui ont pris ça à bras-le-corps et qui vivent très bien la canicule parce qu'il y a une adaptation du programme, parce que les bâtiments sont adaptés, récemment construits, parce que il y a une intégration de cette culture du risque qui est expliquée, partagée et que ainsi les choses peuvent mieux se placer. Je pense que nous devons aujourd'hui, ici à Strasbourg, à Montpellier, n'importe où, en intégrer cette culture du risque, la faire partager, déjà que ça soit mieux compris et qu'on comprenne mieux qu'il y a, on ne peut pas se prémunir contre tout, contre l'accident, contre etc. Mais en même temps, nous devons modifier notre bâti, inciter à modifier les emplois du temps, à donner des conseils. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Nous, on fait remonter une fois par an de tous les services et de toutes les directions des fiches d'action qui prennent en compte, qui analysent le risque école par école et qui sont en dialogue immédiatement avec les espaces au moment où il y a un effet canicule.
Encore une question. Question pour vous, Marie-Dominique Dressé, toujours par courrier électronique. Élodie demande s'il est envisageable que les équipes enseignantes et les collectifs de parents d'élèves obtiennent des villes, qu'elles équipent les classes en ventilateurs ou tout autre moyen de climatisation. Élodie nous dit que dans sa classe maternelle à Paris aujourd'hui, il faisait 36 degrés cet après-midi et toutes les classes ne peuvent pas tenir ensemble dans les endroits à peu près frais de l'école. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'obtenir des moyens de faire baisser la température?
Bah oui, avec des ventilateurs ou une clim, bien sûr, qu'on va arriver à descendre la clim.
Oui, mais la question est, est-ce qu'on peut l'exiger des collectivités?
Ben, c'est dans le dialogue que ça se passe, oui, bien sûr. Il peut y avoir un dialogue de ce type-là. Et
En attendant, il fait 36 degrés dans la salle. Hein.
J'ai même découvert qu'en Espagne, on avait emmené les enfants au funérarium pour faire cours. C'est vrai qu'on est confronté à des situations très particulières et peut-être il y a des dispositions à prendre aussi par rapport à la présence des enfants. On est dans une situation de crise réelle, si on n'a pas su anticiper, construire du bâti qui permet de diminuer la difficulté, il faut prendre des mesures d'un autre ordre. Si vraiment on est dans un état de crise, il ne faut pas laisser les personnes en souffrance. Mais bien sûr qu'on peut demander des ventilateurs qui vont brasser de l'air, ça va un peu tempérer la chose. Mais je pense que, moi je disais tout à l'heure que 2003 a été un moment important aux effets de chaleur, mais aussi par rapport aux personnes âgées. Si vous permettez, j'ai envie d'y revenir.
Mais bien sûr.
On a aussi découvert que les personnes âgées, l'été, étaient un peu plus abandonnées. Pas volontairement, mais c'est le temps des vacances du personnel, c'est le temps des vacances de la
Patrick
famille.
Patrick Pelou et Pascal Chanvert démentent fermement vos propos.
C'était les accusations de Jacques Chirac quand il était revenu. Il avait dit on abandonne les personnes âgées, c'est faux.
Ce n'est pas ça, mais que les présences sur le terrain sont d'une autre nature et que l'isolement des personnes âgées est une réalité. Et c'est là où est peut-être le plus gros risque, c'est les personnes qui sont vraiment isolées, celles-là, comment les touche-t-on? Et je crois que c'est aussi l'enseignement des plans canicules qu'on met en place. Et c'est probablement avec ces plans canicules qu'on doit, autour de ces plans canicules, qu'on doit construire la lutte
Patrick Pelou.
Juste ce que vous voulez dire, c'est pas que les personnes âgées, permettez-moi de juste mettre un bémol par rapport à ce que vous dites. Je vous comprends. C'est surtout la grande pauvreté, en fait. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont pauvres, mais les premiers qui sont frappés, c'était l'exemple d'ailleurs de la canicule de Chicago dans les années 90. c'est la grande pauvreté. C'est ceux qui vivent à l'heure actuelle sous les toits, ceux qui ne sont pas isolés, vous avez raison de le dire. Nous avons un énorme retard, et c'est peut-être d'ailleurs l'écueil depuis 2003. Les bâtiments se sont fixés comme objectif de mettre la climatisation partout, ce qui, à mon avis, est une ânerie. Il faut aller plus vers une écologie de l'environnement et du bâti, plus que de dire on va mettre la climatisation partout et tout le monde sera content. Donc c'est vraiment une mutation sociale, architecturale profonde qu'il
tout
faut
à fait
avoir. Mais c'est surtout, si vous voulez, c'est vraiment la pauvreté qui est frappée en première.
Pascal Chanvert, pourquoi avez-vous réagi aux propos de Marie-Dominique Dressé en les démentant ?
C'est sur l'idée que y a des gens qui sont abandonnés comme ça par les familles et que donc il faudrait que les familles s'occupent mieux des personnes âgées.
Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça.
D'accord. Si vous ne l'avez pas dit,
Marie-Dominique Dressé, la parole à Pascal Chanvert et je vous la donne après.
Si vous ne l'avez pas dit, chère madame, je ne vous fais aucun reproche. En tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que 2003 a révélé quoi ? Que la France est un pays occidental. Qu'en Occident, ce n'est pas vrai de dire que les personnes sont accompagnées, les personnes âgées, par leur famille. Pourquoi ? Parce que dire c'est aux familles de s'occuper des personnes âgées, il n'est pas vrai de dire qu'il y a des solidarités familiales. Les solidarités sont toujours féminines. Et ça veut dire que s'il y a moins de solidarité familiale dans notre pays aujourd'hui qu'il y a 50 ou 70 ans, ou qu'il y en a dans d'autres pays aujourd'hui, eh bien c'est parce que les femmes, elles ont décidé d'avoir une vie professionnelle, parfois une vie politique, comme Madame Dressé, et d'être maire adjointe, et qu'elles ne souhaitent pas s'occuper des personnes âgées à la maison. Donc, que faut-il faire, comme dans tous les pays de niveau de développement comparable au nôtre, faire en sorte qu'il y ait plus de professionnels à domicile pour accompagner les personnes âgées ou bien en établissement. Or, depuis 2003, il y a à peine plus de professionnels à domicile ou en établissement, ce qui explique que nous continuerons à avoir des difficultés. Patrick Peloux a raison de le dire, il y a des difficultés autour de la pauvreté, mais il y a aussi des difficultés autour des personnes âgées qui sont beaucoup plus fragiles. Juste une illustration. N'oublions pas que cette année, même si c'est passé quasiment inaperçu, nous avons vécu un drame du même ordre que 2003 et la canicule. 14 500 personnes sont décédées de la grippe, 14 500 personnes âgées.
Alors, on ne parle pas de la grippe là, mais de la canicule, mais j'aimerais tout de
même
qu'on fasse un point là-dessus. Expliquez-nous, parce que ce chiffre, on ne l'a pas ou peu entendu.
Ah, c'est pourtant il est important.
Il est absolument crucial, il est passé totalement en dessous des radars médiatiques. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé cet hiver.
Au fond, les personnes âgées qui sont fragilisées, qui ont besoin d'aide. Il faut savoir d'abord que 80% des personnes âgées vont bien, ressemblent à Lynn Renault ou Charles Aznavour, même s'ils chantent un peu moins bien. Donc ces 80% de plus de 80 ans, ils n'ont pas de soucis, ils font comme tout le monde. Bon, il y a 20% des plus de 80 ans qui ont des fragilités physiques, psychiques, cognitives. Ceux-là ont besoin d'être beaucoup plus aidés. Pourquoi a-t-on parlé de la canicule et peu de la grippe ? Parce que la moitié à peu près de ces personnes âgées vivent en établissement, la moitié à domicile. Les maisons de retraite sont l'objet de tous les fantasmes et de toutes les critiques. Le domicile est mythifié, mais le domicile est invisible. Les personnes âgées à domicile, elles sont invisibles. Ce qui fait que quand elles meurent de la grippe, comme c'est le cas cet hiver ou même l'hiver il y a 2 ans, elles meurent à domicile et on ne les voit pas. Il est quand même assez fantastique de penser que l'État n'a demandé à l'Inspection Générale des Affaires Sociales aucune enquête sur le fait que près de 15 000 personnes âgées soient décédées. Par contre, l'État a demandé une enquête sur une maison de retraite où il y a eu 13 morts. Parce que 13 morts dans une maison de retraite, ça se voit. 14 000 morts à domicile, ça ne se voit pas. Et c'est bien ça, tout le problème de l'aide aux personnes âgées. Quand il se passe quelque chose d'aussi majeur à domicile, on ne le voit pas. Donc nous disons, il faut faire plus pour les personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient en établissement.
Sur ces 14 000 morts, Patrick Peloux, pour la grippe cet hiver.
On a un problème avec la couverture vaccinale de la grippe. Surtout après l'épisode complètement raté qu'avait voulu Bachelot en vaccinant n'importe comment. Donc il y a eu une perte de confiance. Donc les gens se vaccinent moins. C'est beaucoup plus difficile pour la médecine de ville qui est la médecine de proximité de vacciner. Donc on a perdu, premièrement. Deuxièmement, les patients, avec le temps qui passe, sont devenus encore plus polypathologiques. C'est-à-dire maintenant, ils ont plusieurs maladies en même temps. Et il suffit qu'il y ait un épisode grippal et tout se complique. Et là, il y a vraiment une interpellation parce qu'on était parti dans un dogme de dire mais de la grippe, finalement, c'est une petite maladie, etc. On redécouvre en fait que la grippe, eh bien, elle est plus sévère. Et c'est vrai que la couverture vaccinale, en plus, doit s'appuyer sur un vaccin qui est prouvé scientifiquement. Et des fois, on se demande s'ils vont pas un peu trop vite en disant, voilà, c'est telle souche qui va être la grippe cette année. Ils s'étaient trompés il y a 2 ans. Et donc, voilà, le problème est, à mon avis, multifactoriel. Là-dessus.
Marie-Dominique Dressé, encore un mot, et puis Julie au standard. Vous êtes avec nous ?
Oui, je suis toujours avec vous.
Vous vouliez réagir ou préciser vos propos après l'intervention de Pascal Chanvert.
Oui, c'est toujours un peu compliqué quand on parle des personnes âgées. Il l'a dit lui-même. On a effectivement des personnes plus vulnérables que d'autres dans notre société par rapport à la canicule. Ce sont les personnes âgées isolées, bien plus que celles qui sont en établissement, qui peuvent être plus approchées, plus suivies, plus accompagnées. C'est celles qui sont à leur domicile, oui, et isolées un peu en dehors des radars. Il y a aussi les personnes qui sont à la rue, hein, tous les flux de migrants qui stationnent où ils peuvent et qui sont confrontés en direct à la chaleur. Il y a les enfants, bien évidemment. Mais cela ne s'approche pas de la même façon par rapport aux personnes âgées. Je pense qu'effectivement, les initiatives dans les établissements maintenant sont plus solides. Il y a des pièces obligatoires rafraîchies. Il y a une culture qui s'est installée sur les personnes à domicile. Il reste beaucoup à construire. Nous, on est en train de monter une initiative de seniors relais pour repérer davantage les personnes isolées, parce qu'on sait que, justement, on ne sait pas qui elles sont, puisqu'on ne les connaît pas vraiment. Toutes celles qui sont en contact avec des services, un service à domicile, un centre médico-social, on peut les intégrer dans une dynamique d'approche et de protection en période de canicule. Et c'est là où la vraie piste à explorer, c'est l'isolement des personnes confrontées, évidemment, à une grande
pauvreté. Allez, un mot, Pascal Chanvert, puis Julie au standard.
Un mot rapide, ça suppose, si l'on veut que les personnes âgées soient bien accompagnées, qu'il y ait plus de professionnels auprès d'elles, et ça suppose de ne pas supprimer des postes dans des maisons de retraite, comme c'est le cas aujourd'hui, où on demande à certaines maisons de retraite de diminuer leur nombre de professionnels, premier élément. Deuxième élément, mieux aider les personnes âgées à domicile, oui, mais il faut le faire en aidant le secteur de l'aide à domicile, qui est aujourd'hui sinistré et en grande difficulté. Donc cela suppose que l'État sorte des discours. Oui, les pièces climatisées, oui, la circulation de l'information, oui, la culture de prévention, ça peut permettre de gagner des vies. Pour autant, ce qui permettra vraiment de façon importante de gagner des vies, c'est de faire qu'il y ait plus de professionnels qui aillent voir les personnes âgées à leur domicile ou qui les aident quand elles vivent en établissement.
Patrick, un mot.
Et sans oublier qu'il y a les autres facteurs qui vont avec la canicule. Avec la pollution de l'air,
bien sûr,
qui est vraiment
bien
inhérente sûr à ça et qui pose de sérieux problèmes.
Bien sûr.
Julie, bonsoir et bienvenue sur Inter.
Bonsoir, merci à vous de me répondre.
Je vous en prie.
Alors, j'appelle en fait parce que mon ami travaille en intérim sur un terrain où il n'y a pas d'ombre et où il est en extérieur toute la journée. Donc j'ai bien entendu pour l'hydratation, etc. La question que je me posais, alors je ne sais pas si au niveau du droit du travail il y aura une réponse, mais tout du moins quelles sont les mesures qu'il peut prendre en cas de signe de malaise ou autre, si ce n'est se mettre à l'abri, parce que en cas de travail précaire, quand on est en intérim, on ne peut pas s'arrêter a priori, sous ce risque d'être remplacé.
Merci Julie pour cette question. Patrick Pelloux vous répond.
Il y a une réunion il y a une dizaine de jours autour de la ministre de la Santé. Et il y avait l'ensemble des directions qui étaient là, de la Direction Générale de la Santé, de l'Organisation des Soins, de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et de la Direction du Travail. Et en fait, quand il y a un épisode de canicule, il y a vraiment des fiches qui ont été élaborées par les services du travail qui disent bien les horaires, notamment pour votre époux qui travaille à l'extérieur, il y a des horaires que l'employeur doit respecter et ça doit être respecté. Et ça peut tomber sous le coup de l'inspection du travail. Je sais qu'ils n'ont pas souvent de moyens, mais ça peut tomber sous le coup de l'inspection du travail. Il peut y avoir, si on passe avec des niveaux de canicule orange, voire si ça s'aggrave encore plus, avec des interdictions de travail, notamment pour les travailleurs de force et les travailleurs extérieurs.
Une question par courrier électronique, peut-être un enseignant, ce n'est pas préciser, s'il vous plaît, évoquer le Ramadan actuellement. Le jeûne est observé par les personnes de confession musulmane, nous dit notre auditeur. Actuellement, il y a des jeunes de 18 ans qui passent le bac sans boire ni manger. Ça vous dit quelque chose, Patrick
Pelou ? Moi, je suis pour la laïcité, donc je comprends même pas qu'on fasse ce truc, mais bon.
Vous avez été confronté à ces situations, Pascal Chanvert ?
La situation des jeunes de 18 ans relève assez peu des services à domicile ou les établissements pour personnes âgées.
J'élargissais. Non ?
Je n'ai pas de remarques sur le sujet.
On passe à Chloé qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Chloé. Vous êtes là Chloé ? Sinon, oui, vous êtes là Chloé ou pas ?
Oui, je suis là. Oui, je vous entends.
On vous écoute.
Bon, alors je réagis à ce que j'ai pu entendre là sur le chemin du retour du travail concernant les écoles. Mmh. Je suis enseignante en collège, moyenne dans ma salle, 34,8 degrés cet après-midi. La même chose mardi, la même chose lundi. Voilà. J'entends la femme qui intervient, je suis désolée, j'ai pas pu suivre tout depuis le début, je ne connais pas son nom.
Madame
qui nous dit
Dressé.
Qu'il y a des adaptations possibles, etc. Moi, je n'en vois pas la couleur. Dans mon collège, l'administration a pris la mesure de faire venir les agents beaucoup plus tôt le matin, par exemple, pour l'entretien. Très bien, évidemment. Évidemment, on les préserve. À l'administration, ils se sont achetés des ventilateurs. Mmh. Très bien, ils se préservent. Nous, on est 30 dans un espace en mètres carrés, je sais pas moi. 45, 50, je sais pas combien je fais une classe, je suis pas prof de maths. Mmh. Et on est 30. Par ces températures-là, c'est tropical. On a des élèves qui ont des pathologies, de l'asthme. On a des élèves qui sont épileptiques, qui font des crises. On a des élèves qui font le ramadan. Donc, c'est pas 18 ans, hein, comme j'entendais à l'instant. Mmh. Là, on est dans 13 ans, 14 ans. On doit faire avec. C'est à nous, enseignants, de devoir porter de l'eau à nos élèves. C'est à nous, enseignants, de devoir porter nos propres ventilateurs. Je suis un peu stupéfaite, quand même.
C'est ce niveau de dénuement et de après sûr. Moi le déluge, si j'ose dire.
Mais franchement, on a l'impression de on fait le dos rond. Par chance, l'équipe tient le coup parce qu'on est quand même une équipe assez jeune. Je j'ose pas imaginer dans certains établissements peut-être un peu plus privilégiés avec des équipes un petit peu plus sensibles physiquement. Mmh. Et nous déjà, c'est très 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 dur.
Comment vous avez fait, Chloé, alors ces derniers jours ?
Eh ben clairement. On ne peut pas faire. On demande à nos élèves d'aller boire, on les envoie boire, on essaye de mettre au frais dès que ça commence à tourner de l'œil, parce que l'infirmerie est saturée, évidemment, évidemment.
Vos élèves tournent de l'œil. Vos élèves tournent de l'œil, Chloé.
Mais bien sûr, ils s'assoient dans un coin du couloir pour trouver un semblant de frais, il n'y en a pas. L'infirmerie est saturée, on a eu les pompiers qui sont venus. Enfin, je veux dire, il faut voir les choses en face. Alors, pourquoi adapte-t-on moi, je comprends pas pourquoi adapte-t-on pour certaines professions. Là, pour le coup, je veux dire, on est quand même dans une situation. Moi, j'ai l'impression déjà de mettre ma santé. C'est très limite au travail. Je veux dire, tourner dans une salle, faire cours, je vous en parle même pas. Par ce temps. On garde les élèves. Ils sont gentils chez moi. Mes élèves sont gentils, ils sont patients. Ils prennent leur mal en patience, mais c'est très dur. Pour nous, c'est très dur. Et honnêtement, on ne peut pas faire court. Mmh. Je ne peux pas être debout dans ma salle par moment parce que moi aussi, j'ai la tête qui me tourne.
Vous avez un dialogue avec l'administration, avec la tutelle, comme on dit, ou avec la mairie, ou avec une autorité quelconque, Chloé ?
Alors, on ne dépend pas de la mairie, évidemment.
Oui, bien sûr. Non, mais je dis avec une autorité, quoi.
Alors, oui, quand nous nous réunissons pour les conseils de classe qui suivent notre journée de travail, qui est déjà assez intense, quand on arrive dans l'administration, on a l'impression qu'il y a la climatisation. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que notre difficulté soit entendue. Bon, après, voilà. On en parle évidemment, mais on peut pas. Quand on peut acheter quelques ventilateurs, on peut pas forcément en acheter pour tout un collège. On brasse de l'air humide, hein, vous savez, 30 personnes dans une salle. Mmh. Une conception de bâtiment qui n'est pas, évidemment, on l'a évoqué, qui n'est pas forcément performante en termes de ventilation. Mmh. C'est trop
pénible. C'est une fournaise, oui. Chloé, ne bougez pas, restez avec nous. Patrick Pelou va intervenir.
Non, mais ce que dit Chloé est juste. On s'aperçoit que finalement, la canicule de 2003 et ses conséquences ont été très ciblées et c'était juste parce qu'il y en avait besoin sur la pauvreté, les personnes âgées et certains blocs, mais qu'en fait, il y a une globalité à tout ça. Cette globalité, elle est ce qu'on a dit au début de l'émission, c'est-à-dire avoir des bâtiments qui soient protégés, et ça recouvre les bâtiments où il y a des regroupements scolaires, ça peut aussi être les gymnases ou les différents lieux de travail. Il n'y a pas, en fait, l'erreur politique, ça serait de dire, il va y avoir, en fait, et on le sent un petit peu dans ce que dit Chloé, oui. Il y a les privilégiés qui vont avoir le climatiseur, la business class, puis après, il y a ceux qui sont un peu moins qui sont les ventilateurs. Entre parenthèses, là, je voudrais juste vous signaler que les commerçants sont en train de se régaler sur le prix du ventilateur qu'ils vous vendent au prix du caviar. Il ne faut quand même pas déconner, ça, c'est inadmissible.
Pour brasser de l'air chaud.
D'accord. Et puis, vous avez ceux qui n'ont rien. Il faut changer cette règle-là parce que ça va continuer à chauffer. Ça va continuer. On va en avoir d'autres. Nous avons des poches comme ça qui n'ont pas été concernées. Je voudrais juste vous prendre un exemple très précis sur la médecine. Là, sur la prévention, on arrive difficilement à faire passer le message qu'il faut que les patients adaptent leur traitement. Mmh. Les traitements par anticoagulants, ou qu'ils surveillent, pour ceux qui sont insuffisants rénaux, un peu plus leur diurèse. Et puis, bien sûr, les malades qui sont en psychiatrie avec les psychotropes. Parce qu'on s'était aperçu que dans l'hyperthermie maligne, ceux qui prennent des psychotropes, ils sont en danger supplémentaire par rapport à ceux qui n'en prennent pas. Donc, il y a toute cette vigilance. C'est pour ça qu'il y a vraiment une globalité à ce système-là. Et ce n'est pas parce qu'à chaque fois, on appelle champ vert, on appelle pelou en disant c'est la canicule, etc. C'est on peut en rire, mais c'est pas finalement si drôle que ça, parce que vraiment on a une mutation.
Une question supplémentaire, Chloé, sur le Ramadan, c'est notre auditeur tout à l'heure qui nous interrogeait sur le sujet. Comment ça se passe dans votre classe ?
Alors j'ai pas un grand nombre d'élèves concernés, mais il est vrai que on est obligé. Enfin, il y a des élèves qui ont décidé par eux-mêmes de quand même s'hydrater. On a eu des épreuves, du brevet, etc. Il faut réagir. Il y en a d'autres qui tiennent à tenir. Nous, c'est pas notre rôle d'intervenir, mais on doit quand même aussi garantir leur sécurité.
Mmh. En tout cas, on est sidéré par ce qu'on a entendu comme témoignage direct de ce qui se passe dans votre classe, Chloé. Très bon courage à vous. Merci de nous avoir appelé ce soir. Une question très rapide, Pascal Chanvert. Un auditeur nous demande ce que sont devenus les milliards de la journée de solidarité qui avait été mise en place. Ça vous fait rire, qui avait été mise en place après la canicule.
Il faut demander aux auditeurs s'ils ne les ont pas trouvés.
Le problème, évidemment, c'est que cette journée de solidarité, c'était le lundi de Pentecôte, ça a été remplacé par une RTT ou un autre jour de congé. Elle ne va pas intégralement à l'aide aux personnes âgées. Parce qu'au fond, malheureusement, c'était le but. Parce que, au fond, on nous explique qu'il y a toujours d'autres priorités. Et c'est un des scandales d'État qui s'est continué sous tous les gouvernements, que ce soit ceux de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. On espère que le président Macron, qui veut réconcilier les Français avec la politique pour qu'ils aient confiance dans leur politique, eh bien nous espérons que lui va rompre avec cette tradition qui a consisté à détourner une partie des crédits du lundi de Pentecôte.
Merci à tous les trois, Marie-Dominique Dressé qui était en duplex de France Bleu Alsace à Strasbourg. Merci aux équipes de France Bleu, adjointe au maire de Strasbourg en charge de l'action sociale territoriale. Merci Patrick Pelou, médecin urgentiste, et merci Pascal Chanvert. On vous reçoit pas que pendant les canicules, on fait nombreuses émissions ensemble tout au long de l'année.
Oui, merci France Inter de parler aussi
des personnes
âgées.
Mais c'est vrai, ça nous intéresse et ce sont des sujets absolument cruciaux. Merci donc à vous. Le journal à